Laudetur Jesus Christus.
La colère du monde musulman contre la France. Hier, ils étaient des dizaines de milliers à manifester au Bangladesh contre les caricatures du prophète de l'islam. Et nous l'entendrons, le président turc appelle ses concitoyens à boycotter les produits français. Alors le mouvement est-il suivi par la population à Istanbul ? Reportage à suivre. Dans ce journal, nous irons également en Cisjordanie, plus précisément à Hébron, où Israël annonce la construction de nouveaux logements pour les colons. Puis aux États-Unis, la campagne fera à moins d'une semaine du vote. Enfin, dans notre dossier, Monseigneur Laurent Dabiré. Il est évêque au Burkina Faso et président de la conférence épiscopale du Burkina Niger. Il reviendra avec nous sur les actions de l'Église pour apaiser le climat du pays alors qu'arrive la présidentielle et nous décrypte les origines des violences au Burkina Faso.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à tous. Ils étaient hier une marée humaine dans les rues de Dhaka, au Bangladesh, pour faire part de leur colère après les propos d'Emmanuel Macron et sa défense des caricatures du prophète de l'islam. Une effigie du président français a été brûlée. Les manifestants l'accusent d'adorer Satan. Depuis quelques jours, la colère de certains pays musulmans ne s'apaise pas. C'est le cas également de la Turquie. Le torchon brûle entre Paris et Ankara après l'appel du président turc Recep Tayyip Erdogan à boycotter les produits français. Ainsi, le chef de l'État turc condamne le traitement qu'il juge discriminatoire des musulmans de France et les propos d'Emmanuel Macron. Dans la population turque, l'appel du président Erdogan semble reçu avec plus ou moins d'enthousiasme. Le reportage à Istanbul d'Anne Andlauer.
Assis au soleil près d'une rue commerçante du centre d'Istanbul, Mustafa, un retraité, soutient son président quand il appelle à boycotter les produits de marque française.
On est obligé de soutenir cet appel, on n'a pas le choix. Tous ceux qui vivent en Turquie doivent le soutenir. C'est une façon de protéger notre religion contre ceux qui l'attaquent. Tous ceux qui vivent dans ce pays doivent la protéger.
Un peu plus loin, Metin, un marchand de fruits et légumes, se dit a priori favorable à l'idée, tout en s'avouant incapable de citer une marque ou un produit français qu'il consomme régulièrement et pourrait donc boycotter. Mais pour lui, c'est une question de principe, une façon d'envoyer un message.
Je vois ça comme une réponse silencieuse et mesurée. Chacun devrait respecter les croyances d'autrui. Aujourd'hui, vous insultez ce que certains considèrent comme sacré. Demain, d'autres vous feront la même chose. Cela n'apporte rien de bon.
Ediz, un barbier, est quant à lui beaucoup plus sceptique quant à l'efficacité des appels au boycott et des discours provocateurs du chef de l'État turc.
J'ai reçu sur WhatsApp des messages d'amis disant de ne pas acheter tel produit ou tel autre. Mais à quoi ça sert concrètement d'acheter tel produit étranger et pas tel autre? Moi, je préférerais qu'on essaye d'apaiser les tensions.
Ces appels au boycott, largement relayés sur les réseaux sociaux, ne semblent toutefois pour l'instant pas encore suivis d'effet dans les rayons des magasins turcs. À Istanbul, Anne Andlauer pour Radio Vatican.
Plusieurs pays d'Europe resserrent la vis pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus. En Allemagne notamment, des restrictions devraient être annoncées aujourd'hui, selon les médias allemands. La chancelière Angela Merkel préconiserait un confinement léger, avec une fermeture des bars et des restaurants, ainsi qu'une interdiction des rassemblements publics. De l'autre côté du Rhin, en revanche, les mesures s'annoncent plus dures. Le président français s'exprimera ce soir en direct à la télévision. Le gouvernement français prévient qu'il faut s'attendre à des décisions difficiles. Autre ambiance, en revanche, en Australie, c'est un grand jour à Melbourne. Après 3 mois de fermeture, les boutiques et restaurants rouvrent finalement aujourd'hui. Durant tout l'hiver, notre été, les habitants de Melbourne ont vécu avec des mesures drastiques, couvre-feu, ne pas se déplacer dans un rayon de plus de 5 km. Au total, la Covid-19 a fait 907 morts en Australie sur une population de 25 millions d'habitants. Israël annonce la construction de logements pour les colons juifs dans un quartier sensible de Hébron. Cela fait 20 ans que ce n'était pas arrivé dans la ville poudrière de Cisjordanie occupée, où vivent environ 800 juifs parmi 200 000 palestiniens. Le tribunal de Jérusalem a autorisé hier cette construction, mais la bataille judiciaire ne fait que commencer. À Jérusalem, Valérie Ferron.
Pour l'association israélienne La Paix Maintenant, ce nouveau coup de force est particulier pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la première fois depuis 20 ans qu'une colonie va être construite dans cette zone où vivent quelques centaines de colons parmi les plus extrémistes protégés par l'armée. Ensuite parce que le plan lui-même ne tient pas compte des mesures héritées des Britanniques qui interdisent des constructions de plus de 2 étages près du caveau des patriarches. Or, cette nouvelle colonie prévoit un immeuble de 6 étages avec un parking souterrain. La manière manière dont le gouvernement israélien a contourné l'appareil judiciaire étatique est également dénoncée par Shalom Arshav. Cette association ainsi que la municipalité de Hébron ont porté plainte auprès des tribunaux israéliens dénonçant la totale illégalité des constructions. Une audience doit avoir lieu en janvier prochain, mais le gouvernement israélien a estimé avoir le droit légal d'approuver les permis de construire, même si les travaux ne pourront commencer qu'à l'issue de la bataille judiciaire. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
L'État soudanais annonce réduire ses subventions sur le carburant. Le prix du litre d'essence locale et importé va passer du simple au double. Dans un pays où la chute de la livre soudanaise a déjà réduit le pouvoir d'achat de la population, asphyxiée par la cherté de la vie, le taux d'inflation annuel au Soudan dépasse cette année les 200%. Ils sont républicains, la plupart ont voté pour Donald Trump en 2016, mais cette année, ils ont décidé de voter contre le candidat de leur parti. Le groupe des Républicains contre Trump est très actif sur les réseaux sociaux et ils se mobilisent pour pousser les républicains à voter pour le démocrate Joe Biden. En plus d'un groupe national, plusieurs initiatives au niveau local sont créées. Le reportage d'Alexandra Sirgan.
À la sortie d'un meeting pro-Trump en Pennsylvanie, Eric et Catherine expliquent qu'ils n'ont jamais autant soutenu le président.
C'est notre troisième meeting de Trump.
Nous aimons le message de Donald Trump. Notre économie n'a fait que s'améliorer sous son mandat. Nous voulons que ça continue.
Et peu importe ce que disent les sondages qui placent Joe Biden en tête, Eric se souvient que c'était la même histoire il y a 4 ans.
On a vu en 2016 que les sondages étaient biaisés. Ça ne nous inquiète pas du tout. Nous pensons qu'il va gagner.
Remplis de fans inconditionnels, les meetings de campagne de Trump affichent complet. Pourtant, certains républicains assurent ne plus pouvoir soutenir le président. Un mouvement appelé les Républicains contre Trump a été créé et rassemble plus de 180 000 abonnés sur leur chaîne YouTube. Ryan en fait partie. Le jeune homme de 24 ans avait fait campagne pour le président en 2016.
Je ne reconnais plus mon parti. J'ai continué à soutenir Trump après son élection, mais après les manifestations à Charlottesville en 2017, où il a refusé de condamner les suprémacistes blancs, je me suis dit, je ne peux plus le soutenir. Il attise trop les divisions.
Si ce mouvement est principalement actif sur les réseaux sociaux, il touche aussi des ténors du parti. Parmi eux, un ancien secrétaire d'État, 3 gouverneurs de l'ancienne administration Bush, père et fils, et 70 anciens responsables de la sécurité nationale. Ces derniers ont récemment publié une tribune en soutien à Joe Biden. Alexandra Sirgan, Cincinnati, Radio Vatican.
Et hier, Donald Trump a promis le meilleur plan de relance possible. Mais après l'élection du 3 novembre, une fois que les républicains auront conquis la Chambre des représentants, selon le président Trump. Avant de passer à notre dossier de la rédaction, nous revenons ce matin sur la lettre du pape François publiée hier, une interpellation du continent européen dans laquelle le Saint-Père exprime ses vœux pour que l'Europe puisse continuer de jouer un rôle central dans l'histoire de l'humanité, riche de son histoire et de ses racines. François invite le vieux continent à être plus solidaire et fraternel, mais aussi sainement laïque, où l'aspiration à la transcendance soit reconnue et valorisée. Le cardinal Jean-Claude Olrich, archevêque du Luxembourg et président de la COMEC, la Commission des conférences épiscopales européennes, se réjouit de cette interpellation du pape François.
Je ne pense pas que le pape dise que l'Europe a complètement perdu ses valeurs, mais plutôt que l'Europe a de fortes tentations pour le moment. Les tentations du nationalisme, il y a des tentations de populisme, il y a des tentations de fermeture des frontières, de ne pas accepter les migrants, etc. Donc, il y a des dangers. Le danger d'un consumérisme, le danger de ne regarder que le passé, etc. Donc, le pape nous met en route contre des tentations et nous donne en fait la voie vraiment européenne d'aller de l'avant, basée sur nos racines, que nous partageons, les chrétiens partagent avec d'autres, mais pas pour rester attachés à une histoire rigide qu'on voudrait faire répéter, mais pour aller vraiment de l'avant, pour construire un espace de sécurité, de paix, et c'est merveilleux.
Voilà le cardinal Jean-Claude Olrich, il était interrogé par Marie Duhamel. Et cette lettre du pape François est évidemment retrouvée sur notre site internet. L'élection présidentielle aura lieu le 22 novembre prochain au Burkina Faso. Un scrutin à risque dans un pays déstabilisé depuis plusieurs années par la violence djihadiste. Ce lundi, les 13 candidats à l'élection ont donc signé un pacte de bonne conduite, les engageant à faire campagne de manière responsable et dans un climat apaisé. Malgré cette bonne volonté, les élections pourraient être propices à des flambées de violence par des groupes terroristes qui ont tout intérêt à déstabiliser ce pays du Sahel. En 5 ans, les violences djihadistes ont fait 1200 morts et 1 million de déplacés. Le Burkina Faso est un pays fragile, encore traumatisé, mais des solutions sont là pour faire baisser la violence et l'église burkinabé y apporte sa contribution. Ce matin, nous vous proposons d'écouter Monseigneur Laurent Dabiré, c'est l'évêque de Dori dans le nord-est du Burkina. C'est également le président de la conférence épiscopale du Burkina-Niger.
On sent des remous par-ci, par-là. Mais bon, les attaques massives, féroces, avec grand déplacement de population, nous n'avons plus connu ça depuis quelques mois. Avec la fin de la saison, l'inquiétude réapparaît, parce que généralement, c'est à ce moment-là que les groupes terroristes reprennent du service. L'Église mène des actions humanitaires, donc distribution de vie, livre, distribution de kits sanitaires, formation des femmes aux rudiments santé, hygiène, et puis donc des sensibilisations sur la tolérance, le vivre ensemble. Voilà un peu les actions que nous menons. Bon, des messages radio diffusés aussi, d'appel à la tolérance, à la paix, pour aider les populations vraiment à ne pas céder à la violence, à ne pas céder à la haine, à ne pas céder au repli.
Que répondez-vous à ceux qui disent que les violences, le conflit au Burkina Faso est de nature religieuse, que les affrontements divisent notamment musulmans et chrétiens?
La grille de lecture qui veut faire de ce conflit un conflit religieux n'est pas exacte, parce que s'il y avait un conflit religieux, je pense que la tournure des choses serait tout autre. Mais il y a une sorte d'insurrection terroriste. On a tout un ensemble de centres d'intérêt. Il y en a qui s'y engagent, peut-être pour leur foi, les idées que propagent les terroristes, un modèle de société qu'ils veulent. Il y en a qui s'y engagent pour des raisons économiques, parce que bon, c'est pour eux un débouché, un gagne-pain. Il y en a qui s'y engagent au titre peut-être de leur appartenance à une localité, à une ethnie. Bon, c'est un mélange de cet ensemble de choses. Mais la religion est de temps en temps évoquée, et c'est des tentatives, à mon avis, de rallier le maximum de gens. Quand on réussit à intoxiquer les gens, à leur dire que c'est en vertu de leur foi, ou bien c'est pour soutenir leur religion qu'il faut combattre, on récolte un certain nombre d'adeptes. Mais dans la réalité, les religions ne sont pas en lutte, sinon ce serait beaucoup plus grave.
Quelles sont les pistes, selon vous, pour revenir à la paix au Burkina Faso?
Vous convenez avec moi qu'on ne peut pas dialoguer s'il y a des hommes en armes partout. Donc il faudrait pouvoir contenir ce phénomène-là dans des limites raisonnables pour que la confiance puisse renaître, que le dialogue puisse s'instaurer, et le dialogue permettra de progresser sur le chemin de la paix et la reprise des activités de développement dont on a grandement besoin. Dans ce dialogue-là, le dialogue interreligieux est important pour qu'il soit éloigné toute tentation donc de faire de la religion donc un motif d'opposition. Le Burkina a vécu pendant des décennies sans connaître cette radicalisation, cette opposition qu'on veut amener. Mais il faut que on rende la société burkinabé capable de résister à cette poussée du radicalisme de nature religieuse et aussi de nature ethnique. Et maintenant, le facteur développement, aider vraiment les populations qui luttent à être résilientes pour que le désespoir ne conduise pas des gens à faire des choix malheureux contre leur propre pays.
Interrogé par Olivier Bonnel, Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori au Burkina Faso, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, c'est tout à l'heure à 13h. À 10h, vous pouvez retrouver l'audience du Saint-Père à suivre en direct sur notre site internet. Je vous souhaite une très belle journée.